I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民
Hollywood stars Mika Perucci की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours entre 11h et 11h50, une émission dans laquelle vous retrouverez la chronique de notre ami Alexis Patovsev. Ça sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission. On va entamer dans Culture Monde une nouvelle série autour de l'industrie du sexe, sexe et porno, la fabrique des désirs. Demain, émission sur l'imaginaire érotique dans le monde. Mercredi, Indonésie, Chine, Égypte, cacher ce sexe que je ne saurais voir. Et puis jeudi, si Sex and Sun, les enjeux du tourisme sexuel. Mais aujourd'hui, donc, on va commencer par la production cinématographique, pornographique. Hein. De Budapest à la Porn Valley, silence, on tourne.
Monsieur, bonjour. Merci. Monsieur, bonjour. Merci, monsieur. C'est mon gagne-pain, voilà.
Je préfère le business du sexe que des armements.
Monsieur, bonjour. Oui. À moi. À moi, les petits sous.
Je préfère encore regarder ça que des films de violence, hein. J'étais plus choqué par Orange Mécanique que par l'avocate, la pâte culotte ou autre. Non, c'est plus marrant.
Vous savez, je dis toujours, il y a trois clients. Il y a les jeunes, la moyenne et les plus anciens. Alors j'ai appelé ça le DES, DES, les jeunes découvertes, le milieu entretien, la fin, les souvenirs. Regardez cette image, cette lumière, ce cadrage, c'est joli, quoi.
Voilà un petit extrait d'un documentaire, L'Empire du sexe d'Amal Moghazel, qui avait été diffusé sur France 5. On va parler ce matin de la production légale du cinéma pornographique. Géographiquement, elle se situe dans des zones très précises. L'Europe de l'Est d'abord, la République tchèque et la Hongrie, qui est devenue ces dernières années un des hauts lieux du cinéma porno. On en parlera largement ce matin. Et puis aussi, bien sûr, les États-Unis, qui restent le leader mondial. Los Angeles, plus précisément, dans la vallée de San Fernando. Porn Valley, c'est parfois comme ça qu'on l'appelle, la même où on trouve les plus célèbres compagnies dédiées au cinéma, à la télévision, CBS, les studios Universal, Walt Disney, la Warner Bros. Mais peut-être que Los Angeles pourrait voir son industrie du film pornographique déserter les lieux. En effet, depuis le référendum du 6 novembre dernier, une loi impose aux acteurs d'utiliser des préservatifs sur les tournages, une situation dénoncée par le monde de l'industrie du sexe. Les amateurs de films pour adultes n'ont aucune envie de voir les acteurs utiliser des préservatifs. Point barre, il n'y a pas de marché pour ces films, a lancé l'inénarrable Larry Flynt, le père de la revue Hustler. Alors même si la démarche des militants de la lutte contre le sida qui ont poussé pour faire passer cette loi est bien sûr indiscutable, puisqu'il s'agit de protéger les comédiens, il semble que, eh bien, dans ce domaine aussi, ce soit bien le marché qui dicte les choses, un marché avec des profits, des exclus, des individus broyés par le système, l'industrie pornographique, une industrie comme les autres. C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin, quelles sont les régions où elles prospèrent, sont-ce d'ailleurs toujours les mêmes, comment les gens y travaillent, quels sont les profits, les travers, comment cette activité est-elle encadrée aussi sur le plan législatif, est-ce qu'elle échappe à la crise. Voilà un certain nombre de questions autour desquelles on va se pencher ce matin avec vous en plateau. Grégory Dorcel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Grégory Dorcel, vous êtes le directeur général du groupe Dorcel, qui est donc une société de production audiovisuelle française qui est spécialisée dans l'industrie cinématographique porno. Hein. Votre regard d'abord, Grégory Dorcel, sur ce référendum qui oblige, du côté des États-Unis, ces comédiens américains à utiliser des préservatifs. Est-ce que c'est une réelle préoccupation sanitaire ou est-ce qu'il y a derrière aussi des considérations morales, selon vous ?
Écoutez, tout d'abord, je suis assez à l'aise pour en parler parce que chez Marc Dorcel, ça fait 10 ans qu'on tourne l'intégralité de nos productions 100% avec préservatifs. Mais personne ne nous l'impose et en tous les cas, je n'accepterai pas que l'on me l'impose. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours de sérieux doutes à savoir quel est le véritable objectif là-dedans. Le véritable objectif, alors si l'objectif était sanitaire, Il faudrait qu'il y ait un besoin, mais vraisemblablement, enfin en tous les cas, depuis que je suis dans l'industrie du X, depuis une quinzaine d'années, à ma connaissance, je crois qu'il y a eu deux cas avérés de séropositivité, vraisemblablement qui sont liés à des activités en dehors des tournages, et ça dans le monde entier.
Des États-Unis, pardon, ouais. Je vous coupe, mais l'Association des producteurs de films pornographiques avait annoncé l'arrêt des tournages suite justement à la découverte de 9 cas de syphilis. C'est en tout cas ce qui avait été avancé officiellement. On avait soupçonné une épidémie généralisée. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
On en est au fait qu'il y ait une surveillance et des actions mondiales immédiates. Et c'est ce qui fonctionne merveilleusement bien dans notre industrie. Et pour ça qu'il y a si peu et quasiment pas de cas de contamination, quoi que ce soit. Parce que c'est bien évident de penser que oui, il y a des intérêts économiques qui sont derrière. Et donc le premier intérêt que l'on a, il est de protéger l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces activités, de protéger tout bêtement nos tournages eux-mêmes. Si effectivement on commence à avoir des problèmes sanitaires sérieux sur nos productions, on serait bien obligé de les arrêter d'une façon ou d'une autre, ou contraint. Donc ne serait-ce que pour une bonne logique économique, si certains ne réfléchissent que par l'axe économique, ne serait-ce que pour une logique économique, on se doit de protéger nos productions. Nous, chez Marc Dorcel et moi-même, j'ai une autre vision, c'est-à-dire humainement et personnellement, je ne pourrais pas supporter de me regarder dans la glace si j'avais le moindre problème sur une de mes productions, et donc si un de mes salariés, puisque c'est en l'occurrence c'est le cas, avait le moindre problème de santé à cause de moi. Voilà. Maintenant, ensuite, chacun voit midi à sa porte. Au-delà de ça, donc cette raison sanitaire, j'en doute, puisque vraisemblablement on est la communauté, en tous les cas, la plus protégée et celle qui a vécu le moins de problèmes ces 20 dernières années. Au-delà de ça, on en parle notamment en France. On a parlé de pédagogie et d'éducation. On a dit, mais voilà, il faut des préservatifs dans les films UX, parce que comme ça va aider à faire comprendre aux jeunes qu'il faut des films UX. Alors là, c'est un peu curieux, parce que si j'ai bien compris, les films UX étaient interdits strictement aux moins de 18 ans. Donc j'imagine que l'éducation, elle n'est pas censée se faire par la pornographie. Et auquel cas on devrait assumer ce rôle-là, ce qui me paraît un petit peu curieux. J'ai du mal à comprendre à ce moment-là pourquoi dans les films traditionnels, ceux qui sont diffusés au cinéma et à des centaines de millions de spectateurs dans le monde entier, quand un couple s'apprête à faire l'amour, pourquoi eux ne seraient pas obligés de montrer qu'ils vont utiliser un préservatif? Je pense que le message serait beaucoup plus fort et en tous les cas beaucoup plus entendu. Et le dernier point enfin, c'est que je m'aperçois que pour d'autres raisons, qui se comprennent d'ailleurs tout à fait, dans l'industrie pornographique gay, l'ensemble des associations et des acteurs du marché ont poussé à l'utilisation systématique du préservatif, ce qui était très bien. Mais finalement, ces associations ont engendré un monstre. Pourquoi un monstre ? Puisqu'aujourd'hui, vous avez 90% du marché DVD, de la consommation, se fait sur des films qui spécifient que eux sont tournés sans préservatif. Alors que l'usage du préservatif n'était absolument pas un problème dans cette industrie, le fait de l'obliger, en tous les cas, sur certaines productions, fait que d'autres s'en sont emparés comme un élément marketing, de dire « moi c'est sans, moi c'est avec », etc. Et pour finalement faire en sorte que, sur l'industrie pornographique gay, vous retrouvez très peu de films finalement commercialisés avec préservatif. Donc je trouve tout ça un petit peu curieux, bizarre. Je suis pour une certaine liberté et j'ai toujours tendance à croire qu'il s'agit plutôt de tentatives de censure qu'autre chose.
Question morale peut-être avant tout. Il y a un certain nombre de sociétés qui ont porté plainte contre le comté de Los Angeles, société californienne, Vivid Entertainment, Califa Productions, Caden Cross, Logan Pierce. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent peser au point de faire annuler la loi ?
Ouais, elles peuvent peser, je fais confiance en tous les cas au, la justice américaine. La justice américaine, elle est, je pense, assez pragmatique. Donc on verra ce qu'il en est. C'est vrai qu'on connaît tous les tenants et aboutissants de cette décision. Paraît assez difficile, mais néanmoins, je pense qu'il y a du pragmatisme. Les Américains en ont fait souvent preuve.
Et vous pensez que alors cette industrie pourrait se délocaliser dans d'autres États où cette loi n'existe pas ?
Oui, alors que cette industrie, puisque effectivement c'est une loi qui est liée à un État, c'est fédéral, il suffirait traverser la frontière de l'État pour qu'il soit soustrait à ces conditions. On voit à quel point d'ailleurs c'est ridicule. Hein. C'est-à-dire, il suffit de faire 200 km d'un côté ou de l'autre pour finalement que ça ne s'applique plus. Bon, alors effectivement, ça pourrait être fait. Bah, je trouve ça tout aussi ridicule d'ailleurs de ne pas s'y plier. Hein. Voilà, dans un sens ou dans un autre, autant on pourrait se plier à la loi et faire leur tournage avec préservatif, mais de l'autre côté, l'imposer comme ça bêtement de façon stérile paraît ridicule aussi. Donc oui, je suis curieux de voir en tous les cas quels vont être les rebondissements de cette affaire.
Encore une chose sur les États-Unis. Ça représente quoi ce marché de l'industrie du porno aux États-Unis ? Ça représente quoi en volume ? Ça représente quoi en emploi ? Et puis qu'est-ce que c'est en regard de l'activité, disons, traditionnelle, classique, des studios qu'on connaît ?
Alors, l'industrie pornographique aux États-Unis, notamment dans la Palm Valley, autour de Los Angeles, c'est plus de 7000 productions par an. Vraisemblablement, ça représente plus d'emplois sur Los Angeles que le cinéma traditionnel, parce que le nombre de productions est beaucoup plus important.
On va poursuivre Grégory Dorcel. On va rester encore sur les États-Unis. On va retrouver dans un instant Claire Debrue pour ce livre que j'ai sous les yeux, The Other Hollywood, l'histoire du porno américain par ceux qui l'ont fait. On la retrouve dans un instant. On va revenir donc sur 40 ans d'histoire de l'industrie pornographique américaine. Ce que vous entendez derrière, c'est le générique de Deep Throat, autrement dit Gorge Profonde, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Le gros succès porno des années 70 avec la star, la première star, l'une des premières en tout cas du cinéma porno, Linda Lovelace. Ça correspond à une césure dans l'industrie du cinéma pornographique américain, puisque avant cela, au fond, les films, c'était plutôt des petits films courts, ce qu'on appelait des loops, qui se distribuaient un peu sous le manteau. Et puis à partir de là, vraiment, on va entrer dans une distribution un peu organisé. C'est d'ailleurs, en tout cas, au tout début, plutôt la mafia qui va organiser toutes ces projections. Claire Debrue, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes critique, vous êtes une traductrice, et la traductrice justement de cet ouvrage, The Other Hollywood, l'histoire du porno par ceux qui l'ont fait, qui est un ouvrage, je l'indique, de Lex McNeil et Jennifer Osborne. C'est une compilation d'entretiens qui donne la parole aux acteurs porno des années 50 aux années 90. C'est 7 longues années de travail pour compiler des paroles de tous bords, des acteurs, des producteurs, des techniciens, des machinistes, des photographes. On a même des membres de la mafia, on a aussi des documents provenant de policiers, d'agents du FBI. L'idée, au fond, c'était, comme le dit l'auteur dans la préface, de montrer la relation passionnelle que l'Amérique entretient avec le porno. Vous êtes beaucoup investi, Claire Debrue, dans la traduction de cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans ?
J'ai une grande admiration pour Lex McNeil et pour le travail qu'il avait fait avec Please Kill Me, qui était un livre sur le rock punk, qui était également un montage d'entretien extrêmement sophistiqué, avec une matière très très riche. Et quand j'ai découvert ce livre, The Other Hollywood, qui est effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est une quarantaine d'années d'histoire de l'Amérique et de sa relation avec le sexe. J'ai trouvé ce livre absolument passionnant. C'est une sorte de roman noir, ça se lit comme un polar. Comme vous le disiez, ce sont les producteurs, les acteurs, mais aussi des flics du FBI, des mafieux qui racontent cette étonnante histoire qui est un peu une histoire du capitalisme américain à travers le prisme du sexe, du marché du sexe.
Un capitalisme américain qui est très dur, en tout cas sur le début. Il y a un passage extrêmement dur dans ce livre, notamment celui où ce producteur force une actrice, justement Linda Lovelace, à tourner une scène avec un chien. Alors on découvre justement la scène à travers les yeux de différents protagonistes, le producteur, le réalisateur, producteur et l'actrice. Alors pour le producteur, qui est Chuck Traynor, la scène est très réussie, il est très content du résultat qu'il a obtenu. Et puis pour elle, évidemment, c'est un calvaire total. Elle se sent sale, abusée, violée. C'est le pire souvenir de toute sa vie. C'est évidemment la vie de cette femme. En tout cas, à ce moment-là, elle n'est pas du tout enviable. On est loin, on n'est pas très très loin de l'esclavagisme hein, dans ce cas-là. On est dans un contexte d'une rare violence quand même. Est-ce que c'est représentatif au fond du monde du porno américain au début des années 70 ou est-ce qu'on est dans une situation marginale?
Je crois pas. Vous savez, dans cette scène, effectivement, ce qui est très 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 bien fait, c'est on a de nombreux témoignages. La seule personne qui parle, qui dit j'ai été menacée avec un flingue, on m'a forcé à avoir cette relation avec le chien, c'est Linda Lovelace, et tout le monde dit le contraire. C'est-à-dire le producteur, son agent Chuck Traynor, les acteurs autour, les gens qui ont fréquenté ce studio. C'est très très compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé. Là où vous avez raison, c'est que, bien évidemment, le porno n'est pas un monde très plaisant où les gens sont toujours bien traités, mais je crois quand même que, globalement, à cette époque-là, nous sommes encore au moment où l'immense majorité des gens qui tournent des films porno, qui sont en plus des petits films, sont des sortes de hippies qui croient illustrer la libération sexuelle en entrant dans l'univers du porno, qui est censé être un signe de libération d'une Amérique complètement glacée par le sexe. Et c'est plus tard, quand le porno devient extrêmement lucratif et que les grandes familles de la mafia s'emparent de cette industrie, et qu'on commence à brasser des millions et des millions, que là, bon, la population change. Il y a des gens qui entrent dans le porno parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir en faire un tremplin pour faire du vrai cinéma après. Et puis, il y a des jeunes filles qu'on va chercher qui sont véritablement, enfin, des gamines et qui sont manipulées et effectivement réduites à une sorte d'esclavage. Ça, c'est plutôt dans les années 80. Dans les années 70, globalement, de manière générale, ça se passe plutôt bien, dans une espèce d'esprit bon enfant, je dirais.
Claire Debrue, on entendait tout à l'heure, hein, avant de vous accueillir, on a passé le générique du film, dans lequel justement Linda Lovelace joue. Qu'est-ce qui fait que c'est cette femme qui va devenir, alors c'est peut-être pas la première, mais en tout cas l'une des premières, très clairement, star du X? Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que ça correspond au fond à un moment où bien tout simplement l'industrie du porno se professionnalise? Qu'est-ce qu'il explique?
Alors, Gorge Profonde, c'est le premier film porno qui a du succès et qui est vu dans tous les États-Unis par une population immense qui n'est pas du tout la population qui dépasse de très loin la population qui habituellement va voir les films porno. C'est le premier film porno à être vu, en gros, par tout le monde. Et c'est d'ailleurs le film qui reste le plus rentable de toute l'histoire du cinéma, puisqu'il avait coûté 25 000 dollars et qu'il en a rapporté 650 millions.
Ah oui, en effet, oui. Ça fait rêver Grégory Dorsal ici, là, il a un sourire.
Voilà, je crois que même, comment s'appelait ce film d'horreur fait par des jeunes étudiants qui avaient...
Le projet Blair Witch.
Oui, voilà, je crois que Blair Witch reste encore au-dessous. Au niveau, vous voyez, coût de production et rentabilité finale.
Ça vous laisse rêveur, Grégory Dorsal, ça a 25 000 dollars de coût et ça a 6 millions de recettes.
Je crois qu'on a effectivement oublié que fin des années 70, le cinéma X était projeté dans toutes les salles du monde entier. Et que je crois que c'est été 78 ou été 76, vous avez plus de 50% des salles de cinéma sur les Champs-Élysées qui proposaient des films X. Donc on a tendance à dire que le X est partout, c'est l'inverse pour moi aujourd'hui.
Bon, je pense qu'on a dû perdre Claire Debrue, mais on va la retrouver. Est-ce que aujourd'hui aux États-Unis, alors à l'époque, et on le voit très bien dans le livre, Grégory Dorsal, les filles sont souvent accompagnées d'hommes avec qui, en gros, elles sortent et qui, en même temps, défendent leurs intérêts. C'était en gros leur manager. C'était ce qu'on appelait à l'époque les macs de voyage. Comment ça s'organise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une une légalisation, il y a une, pardon, un cadre légal qui encadre justement
aujourd'hui,
l'activité de ces,
alors,
personnes.
Bon, j'entends, hein, j'entends cette histoire, etc., qu'on connaît. Il est vrai qu'à l'époque où l'industrie, en tous les cas du X, générait d'énormes revenus, c'est-à-dire tant que le cinéma X, enfin tant que le X finalement était projeté dans toutes les salles de cinéma du monde entier, c'est vrai que la mafia était derrière. Aujourd'hui, le business est complètement banalisé et en tous les cas, les profits qui sont générés sont vraisemblablement pas assez intéressants pour que la mafia puisse encore s'en occuper. En ce qui concerne les actrices et les acteurs, on passe par des agences qui sont tout à fait officielles et donc vous avez des agences de casting qui fonctionnent exactement de la même façon que les agences de mannequins du monde entier fonctionnent. Donc on a ça aux États-Unis, on a ça sur tous les pays de l'Est. Ces agences qui ont pignon sur rue, sur lesquelles les actrices, et plus belles sont les actrices, et plus connues sont-elles, et plus elles négocient au mieux avec les agences, rejoignent les meilleures. Et voilà, et donc il y a un système, toujours, hein, un marché d'offres et de demandes qui régule tout ça. Mais effectivement, il n'y a que, je crois, en France, où ce système d'agences n'existe pas, puisque je crois que ça pourrait être assimilé à du proxénétisme. Et donc, devant cette crainte, personne n'a monté d'agence, ce qui est fort dommageable.
Vous regrettez ?
Je le regrette. Et puis, c'est les actrices et les acteurs également. Parce qu'à quoi sert une agence ? Elle sert à encadrer, à protéger, à vérifier si la société de production avec laquelle on va travailler est une société sérieuse, si les conditions de tournage, etc. Sont correctes. Ça sert à ça, principalement. Donc, effectivement, je vois que les actrices sur les États-Unis ou sur les pays de l'Est bénéficient en tous les cas d'un accompagnement qui est bien plus fort qu'en étant indépendant.
Claire Debru, je crois qu'on vous a retrouvé, Claire Debru.
Oui.
Voilà. Un tout dernier mot, parce que c'est vrai que c'est assez croustillant dans ce livre-là. Vous racontez l'histoire de ces deux agents. Alors, c'est pas vous qui la racontez, mais vous la traduisez. Ces deux agents du FBI qui sont envoyés à Miami pour infiltrer à l'époque le monde de l'industrie pornographique. Allez, vous pouvez nous raconter en quelques mots cette histoire ?
Alors, c'est justement à cause du triomphe de Gorge Profonde qui avait mis en rage l'administration Nixon, qui avait tenté par tous les moyens d'empêcher ce film d'être diffusé et qui n'y était pas arrivé pour des raisons qu'on va pas explorer maintenant. Mais du coup, le FBI a monté une opération d'infiltration au long cours et a envoyé deux de ses agents pendant deux ans travailler dans les milieux de l'industrie porno. Et pour résumer, ça les a rendus un peu fous. Parce qu'évidemment, se retrouver à se promener dans des Cadillac roses, saper dans des costumes en peau de serpent, à se retrouver toutes les nuits debout dans des nightclubs, à fréquenter des jeunes femmes absolument charmantes et à se voir offrir de la coke, ça leur a un peu tapé sur le système.
Le retour à la réalité a été un peu difficile.
Très dur.
Merci beaucoup, en tout cas, Claire Debru, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, traductrice de ce livre, The Other Hollywood, l'histoire du porno américain par ceux qui l'ont fait, c'était aux éditions Alia. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
On va quitter les États-Unis et puis on va aller du côté de l'Europe de l'Est.
Szia, rossz kor?
Szerinted?
Na, csak azért, mert tudod, most van a népszámlálás, és...
Alors évidemment, tout le monde parle peut-être pas le hongrois, mais ce qu'on entend là, c'est un spot hongrois qui date de 2011 pour le recensement. Le gouvernement hongrois avait décidé de mettre toutes ses chances de son côté avec ce spot et on a le recenseur donc, qui vient frapper à la porte. On a une jeune femme très légèrement dénudée qui vient ouvrir et qui explique à notre recenseur qu'il passe pas exactement au bon moment et donc le recenseur lui propose de remplir sa fiche de recensement par internet pour ne plus être dérangé. Grégory Dorcel, on va parler justement de l'Europe de l'Est. En fait, quand on parle de l'Europe de l'Est, c'est un peu faux. Il faut parler en fait de la République tchèque et de la Hongrie, justement. À la faveur de la transition démocratique, Budapest est devenue la capitale, c'est ce qu'on dit en tout cas européenne, du porno. La nouvelle constitution a autorisé la pornographie. Pourquoi est-ce que ce sont ces deux pays, et en particulier la Hongrie, qui sont devenus les hauts lieux de la production pornographique en Europe ? Quelles sont les raisons ?
Alors, les raisons, elles sont liées à la culture de ces pays, à l'attitude de la population et de tout un chacun là-bas par rapport au sexe. C'est-à-dire, contrairement aux idées reçues, on a toujours laissé croire que les productions X étaient faites dans les pays de l'Est parce que les filles y étaient exploitées, parce que ça coûtait beaucoup moins cher, etc. C'est complètement faux, parce que l'ensemble des pays de l'Est les plus pauvres, je vois l'Albanie, la Roumanie, etc., etc., n'ont jamais vu la couleur d'un film X. Mais vous avez un état d'esprit qui est très particulier sur ces deux pays par rapport au sexe, une liberté sexuelle que l'on n'a pas nous-mêmes en France. Et voilà. Et donc le sexe,
peut-être
c'est pas
avec
grave.
Un poids de la religion qui est moindre, beaucoup alors, moindre. C'est sûr que par rapport Hongrie, par exemple, que par rapport à la Pologne
c'est
ou
sûr
par,
que
rapport
par rapport
à l'Ukraine,
à la Pologne,
par exemple.
Certainement. Voilà, mais je pense que c'est un ensemble de choses que bon, je saurais analyser en détail, mais en tous les cas, il est sûr que la relation au sexe dans ces pays-là et la relation à l'esthétisme, à la beauté, etc., est complètement différent des autres pays.
Qu'est-ce que ça représente pour ces pays l'économie du cinéma porno?
Qu'est-ce que ça représente? Oh, écoutez, je suis pas sûr que, en tous les cas, ça puisse permettre de faire vivre toute ou partie du pays. Mmh. Mais néanmoins, il est sûr que pendant des années, ça a pu être, en tous les cas, un assez profitable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'autre intérêt également de ces pays, on n'a pas ajouté, c'est que il est clair que les actrices hongroises et les actrices tchèques sont en général, et les acteurs aussi hein, également, hein, beaucoup plus beaux que les acteurs X de l'ensemble de l'Europe. Donc qu'est-ce que ça représente? Ça représentait une source de revenus non négligeable. Il est évident que puisque les acteurs de l'Est sont payés exactement le même cachet, voire plus important que les acteurs français, allemands,
américains,
bien
aussi,
entendu.
Ouais.
C'est toujours pareil, c'est exactement comme le mannequinat, de la même façon. Hein, nous, en tant que producteurs, si on a une actrice qui est magnifique et plus belle que les américaines, plus belle que les françaises, etc., bah, on sera à même de la payer et de lui offrir des cachets beaucoup plus importants. Voilà.
Mais j'entends bien, vous dites les filles sont très jolies, très bien, mais votre société elle tourne pas mal de films de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des raisons économiques? Les acteurs sont payés pareil, vous nous dites, mais est-ce que les charges patronales par exemple sont pas inférieures?
Bah écoutez, les charges patronales, là-bas, nous, on paye les agences directement. Ensuite, derrière, je ne sais pas exactement ce qu'il en est de leurs charges à eux, mais à ma connaissance, de toute façon, ça, le charge patronal, ils ont exactement la même différence que pour un plombier.
Hein. Ah non, mais bien sûr, non,
voilà,
non,
donc,
absolument.
À partir
non, mais
de là, est-ce que ça
c'est
fait...
la raison d'ailleurs pour laquelle les
est-ce
plombiers travaillent aussi ici
ou... C'est nous, clairement, ça fait aucune différence. Enfin, pour nous, puisqu'on paye, en général, on paye les agences directement, et les agences, qu'elles soient aux États-Unis, sur la Hongrie, la République tchèque, ou sur l'Allemagne ou l'Italie, pratiquent exactement les mêmes tarifs. Voilà. Et ensuite, c'est le star system qui fait évoluer ces tarifs. Vous avez globalement des tarifs de base. Et au-delà de ces tarifs de base, c'est la notoriété et la beauté de l'acteur et de l'actrice, mais essentiellement sa notoriété, qui fait qu'il dépassera le tarif quasiment syndical.
Est-ce que les lieux de tournage, par exemple, sont intéressants d'un point de vue du coût?
Écoutez, pour nous, oui, alors forcément, c'est peut-être un peu plus intéressant, mais vous savez, tout ça, c'est très relatif parce que si je prends le cas de la France, en France, malheureusement, il y a très peu de sociétés de production comme les nôtres, donc beaucoup de petites sociétés de production amateurs. Et dans le cadre de l'amateur, globalement, votre décor, c'est plutôt l'appartement du copain. Donc à ce moment-là, son coût, c'est zéro. Voilà. Aujourd'hui, en tous les cas, nous, on a tendance à payer sur les pays de l'Est les décors exactement au même tarif qu'en France. C'est le monde est internationalisé, voilà, le monde est plutôt global en matière de production pornographique comme pour le reste. Voilà, quelqu'un qui a un beau décor et un beau château, par exemple, en Hongrie, serait stupide d'accepter des tarifs vraiment inférieurs à la France si on est déjà sur place, si nos équipes sont sur place, si c'est bien que de toute façon, on en aura besoin et qu'on sera de toute façon prêt à le payer.
L'industrie du cinéma porno n'échappe pas à vous disiez c'est une industrie mondialisée comme les autres. Est-ce que ça veut dire, vous savez bien que c'est la crise pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce que l'industrie du cinéma porno est en crise également?
Mais bien évidemment, et elle est doublement en crise. parce qu'elle subit la situation économique comme toutes les autres industries. Hein. Au bout du compte, il y a quand même un consommateur qui paye à un moment ou à un autre. Et puis forcément, si ce consommateur a des difficultés économiques ou croit qu'il va en avoir, il est moins enclin à dépenser. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose qui est certainement la plus impactante, c'est le piratage. L'industrie du X subit, comme le reste de l'industrie audiovisuelle, subit le piratage de plein fouet. Et là, les conséquences sont énormes.
Allez, on va vous retrouver dans quelques instants, Grégory Dorcel, de Budapest à Porn Valley, Silence, on tourne, on parle de cette industrie du porno dans le monde. On va retrouver notre ami Alexei Patostev et sa chronique Frontières. Il est 11h passé de 30 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
Three days from now, after half a century in the service of our country, I shall lay down the responsibilities of office as, in traditional and solemn ceremony, the authority of the presidency is vested in my successor.
La dernière allocution télévisuelle du 34e président des États-Unis d'Amérique, Dwight David Eisenhower. Nous sommes le 17 janvier 1961. Dans trois jours, ce républicain va passer le pouvoir à son successeur démocrate, John Fitzgerald Kennedy. Le planificateur de l'opération Overlord est commandant de la plus importante force d'invasion de tout le temps en France en juin 1944, libérateur de la Sicile l'année d'avant. Chef d'état-major général des forces armées des États-Unis et commandant suprême des forces alliées en Europe. Ce grand homme du XXe siècle s'est éteint en 1969 à l'âge de 78 ans. 30 ans après sa mort, le Congrès des États-Unis a décidé, par la loi, de créer la commission pour le mémorial d'Eisenhower. Et, au bout de 10 ans, un site parmi les 26 possibles a été sélectionné, au milieu de Washington, près du Capitole, entre les immeubles ministériels. Puis un concours architectural a été organisé aussi, et c'est le projet du mémorial de l'architecte canadien, Frank Gehry, qui a été choisi par la commission parmi 44 autres propositions. Le vote a été unanime. Eisenhower est issu d'une famille modeste installée au Kansas. Il se surnommait lui-même « Barefoot Boy », le garçon aux pieds nus. Gehry est parti de cette idée donc d'un homme extrêmement humble, un homme d'équipe et d'un exemple d'une formidable mobilité sociale. Sur son projet de monument, on voit une statue d'Eisenhower, âgée de 8 ans, regardant deux bas-reliefs représentant les événements importants de sa vie d'adulte. Derrière l'ensemble sculptural, des grands tapisseries de métal tendues illustrent ses plaines natales du Kansas.
As I work on it, I always keep thinking, what would he think? I love it. I'd be proud to wear
Pendant mon travail sur ce projet, je me disais constamment « Mais que dirait Eisenhower de ce monument ?» raconte Frank Gehry. Naturellement, le grand général 5 étoiles est muet. En revanche, depuis l'adoption du projet par la commission, ce sont ses descendants qui ont commencé à parler. Il était chef d'état-major de l'armée. Il fut deux fois président des États-Unis. C'est pour ses rôles que l'Amérique lui exprime sa gratitude, pas parce qu'il a été un jeune garçon avec un grand avenir devant lui. Cet insurgé, Susan Eisenhower, la petite fille du général. L'idée même, donc, n'est pas bonne. Nous avons des priorités plus urgentes que de bâtir un mémorial si onéreux à l'heure actuelle. S'est indigné John Eisenhower, le fils du président et anciennement ambassadeur en Belgique sous l'administration Nixon. Le coût de l'édifice est estimé à plus de 142 millions de dollars, un peu trop important par ce temps de crise économique, juge la famille Eisenhower, qui estime par ailleurs que les efforts menés depuis 12 ans devraient non pas reposer sur les impôts du contribuable, mais sur des fonds privés et l'argent du Congrès. Et puis la solution artistique, ces tapisseries énormes entre les colonnes, également énormes. À quoi cela ressemble? Les tapisseries en honneur de Marx, Engels et Lénine se trouvaient autrefois sur la place Rouge, dit Susan Eisenhower dans sa lettre au Congrès des États-Unis. La tapisserie en honneur de Mao Zedong est toujours sur la place Tiananmen, tout comme celle en honneur de Ho Chi Minh à Hanoï. Et puis cet alignement des panneaux métalliques géants fera penser au rideau de fer, ou pire, au camp de concentration nazi. Les autres critiques disent que le monument est trop complexe. C'est au musée de raconter la véritable histoire d'un homme politique. Un monument doit se concentrer sur un message plus simple. Et puis, cher Franck Gehry, dit ce même critique, vous vous servez de la biographie d'Eisenhower pour justifier votre choix artistique peu orthodoxe. En fait, vous ne faites qu'utiliser cela pour vous ériger un monument à vous-même en faisant de l'extravagance. Bref, les travaux qui devaient commencer en 2012 n'ont toujours pas démarré. On ne peut pas arrêter un projet déjà entamé, on ne peut pas ne pas entendre les critiques. Franck Gehry a retravaillé un peu les sculptures, mais hors de question de toucher aux tapisseries. Pour l'instant, le mémorial d'Eisenhower existe uniquement sur Internet. Vous pouvez aussi aller y faire un tour pour avoir votre propre idée du projet et donc participer implicitement à ces débats qui, on peut en être absolument sûr, n'aurait pas plu au grand homme tellement connu pour sa modestie.
And that in the goodness of time, all peoples will come to live together in a peace guaranteed by the binding force of mutual respect and love. Now, on Friday noon,
voilà, Eisenhower, c'est cette voix que vous entendez, Frontières, la chronique d'Alexis Patovstev, que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez écouter, réécouter Frontières, mais aussi Culture Monde et toutes les émissions de France Culture. Culture Monde, cette semaine, autour de l'industrie du sexe, sexe et porno, la fabrique des désirs. Aujourd'hui, en particulier, l'industrie cinématographique, de Budapest à Porn Valley, Silence, on tourne. On est avec Grégory Dorcel, le directeur général du groupe Dorcel. On devait avoir l'une de vos actrices, Grégory Dorcel, Anna Paulina, qui a tourné dans un certain nombre de vos films, et notamment un film qui est un remake de Inglourious Basterds, qui est Inglourious Beaches, qui était sorti en 2011. Un budget assez colossal d'ailleurs, 250 000 dollars de coûts de production.
Ah oui, c'est un petit budget par rapport au cinéma traditionnel, mais dans notre industrie, c'est un très gros budget. Très difficile à rentabiliser d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, mais nous, chez Marc Dorcel, en tous les cas, on cherche pas forcément. Alors pour le coup, la rentabilité sur un film, c'est plutôt sur l'ensemble de nos productions annuelles. Ça participe à l'image de marque et même à la dynamique de l'ensemble du marché. Parce que c'est vrai que si on regarde globalement, il y a plus de toutes petites productions plutôt que de gros films événements.
Oui, parce que c'est étonnant, quand je vous ai demandé tout à l'heure, avant de commencer l'émission, si vous saviez si vous étiez rentré dans vos frais, vous m'avez dit « je ne sais pas ».
Non, évidemment, évidemment,
c'est,
non.
C'est quand même rare, hein, les producteurs de cinéma qui ne savent pas s'ils se font.
En général, il faut mieux pas que je sache, c'est plutôt ça. Non, mais effectivement, nous, on a une vision de producteur un petit peu particulière, puisque c'est plus notre production annuelle, l'ensemble, la masse de production qu'on fait dans l'année qui nous intéresse, et plutôt qu'un film, en particulier. Et il se peut qu'en tant que producteur, on ait envie de se faire plaisir, et envie de faire plaisir aussi aux équipes qui travaillent avec nous, en faisant une très grosse production, en se donnant pour une fois des gros moyens. Et donc ça fait plaisir à tout le monde, y compris à notre public. Et de là, il n'est pas forcé qu'on ait une rentabilité immédiate derrière, bien au contraire. En général, c'est de plus en plus difficile que ça soit le cas.
Alors, on voulait le regard, la parole de Anna Paulina, hein, qui était actrice dans ce film notamment. Malheureusement, là, elle n'est pas disponible. En tout cas, elle est à Faune, donc elle ne peut malheureusement pas nous répondre. On va prolonger, nos discussions, Grégory Dorcel. Vous nous disiez, juste avant d'écouter la chronique d'Alexis, que c'était la crise. Et c'était également la crise en Europe de l'Est et également la crise dans l'industrie du cinéma porno. Quelles sont, allons-y un peu plus dans ces, peut-être dans les raisons de tout ça. Il y a la crise, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Il y a la crise économique, mais bon, le principal phénomène qui a complètement modifié notre industrie, c'est le piratage. L'industrie du X est une industrie qui s'autofinance intégralement. C'est-à-dire, on n'a pas de fonds de soutien. Le CNC, on y contribue très largement, mais l'inverse en tous les cas n'est pas vrai. On peut toujours les appeler pour raconter nos beaux projets. Je pense qu'on aura peu de soutien de leur part, voire aucun. Et donc, les seuls qui financent cette industrie, c'est le public. Et donc, on se doit de faire des films qui plaisent à notre public, qui lui donnent envie et qui lui donnent envie de les acheter, de les payer. À partir du moment où des sites pirates diffusent gratuitement ce que l'on s'évertue à produire et à essayer de vendre, bah c'est sûr que nos entreprises ont des problèmes. Et aujourd'hui, je vois que malheureusement, la majorité de mes concurrents ont disparu ces 6-7 dernières années, écrasés par le piratage.
Ça veut dire, pardon, que si on considère, on a dit, c'est la crise du côté de l'Europe de l'Est, on tourne de moins en moins de films. Parce que concrètement, c'est ça que ça veut dire. Oui. Ça veut dire qu'on ne délocalise pas, pour le coup. On ne prend pas les productions pour les faire ailleurs.
Non, délocaliser...
On en fait de moins en moins.
Oui, on en fait de moins en moins et avec des budgets toujours plus petits, réduits à l'extrême.
Mais ça veut dire que c'est la fin de l'âge d'or du cinéma porno ?
Ah, bien entendu, évidemment. Mais la fin de l'âge d'or, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a vu. Vous avez, avant, le principal... La principale source de financement était la vente de VHS ou la vente de DVD, après le cinéma. C'est des activités qui ont quasiment disparu, encore une fois sous le coup du piratage. Globalement, il n'y a pas de nouveaux moyens de commercialisation et de remplacement en tous les cas. Nous, on estime que 90% de la consommation de X se fait de façon illicite sur le net. Voilà, c'est ce qu'on constate globalement chaque jour quand on distribue nos contenus.
Et je reviens sur les délocalisations parce que j'ai lu dans un ou deux papiers qu'il y avait de plus en plus de films qui se tournaient par exemple du côté de l'Espagne. Est-ce que c'est une réalité ça ?
Non, je ne crois pas.
Ah.
Non, je ne crois pas. Non, tout simplement parce que quand nous-mêmes, lorsque l'on tourne, que ce soit en Espagne, en Hongrie, en République tchèque, mais finalement ça nous coûte assez cher puisqu'il faut transporter toute votre équipe, ou en tous les cas une partie de votre équipe. Les actrices, les acteurs phares, etc. Il faut bien les faire voyager, il faut bien transporter toute cette équipe, trouver des équipes techniques sur place. Et finalement, ça a un coût qui est tout aussi important que ce que vous allez peut-être économiser parce que les tarifs seraient 20-30% inférieurs là-bas.
Transporter les stars, c'est vrai pour certains films, peut-être pour les vôtres, mais c'est pas vrai pour tous les films qui sont produits du côté de la Hongrie. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours un processus de starification du côté de la Hongrie. Souvent, on utilise les filles, en tout cas, on les fait tourner dans des films et puis on change de filles. Il y a un véritable turnover, comme on dit en anglais.
Il y a un gros turnover, mais il y a un autre phénomène qui est assez marrant. C'est que à partir du moment où il y a de moins en moins d'argent dans les productions, forcément, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien. La seule chose qui reste, c'est l'actrice, c'est la star et c'est le nom, et c'est son nom. Donc le film va se réduire à sa plus simple expression et ça va finir avec la jaquette, la couverture du film qui va représenter cette actrice, mettre son nom en avant et c'est tout ce qui restera. Et c'est pour ça que les salaires et les cachets de ces actrices n'ont jamais baissé, bien au contraire. Même lorsque vous avez tout perdu, la seule chose qui vous reste dans un film, globalement, c'est cette star. Et donc, si vous n'avez en plus, vous n'avez pas de nom de star, vous avez finalement un contenu et un produit qui devient invendable.
Mais est-ce que c'est vrai pour tous les acteurs de ce secteur-là ? Vous êtes sensible à la starification, entre guillemets, de vos actrices. Mais est-ce que c'est le cas pour tous les acteurs du secteur ? Je parle encore une fois de l'Europe de l'Est.
Mais écoutez, en tous les cas, pour la majorité, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'histoire, pas de thématique particulière, pas de décor spécifique, si vos acteurs ne sont pas spéciaux, globalement, ce que vous avez produit n'intéresse plus personne. Donc autant plus produire du tout.
Oui, parce que vous êtes quand même sur une dynamique, au fond, quand même de long terme. On sait, cette question du scénario, elle est centrale chez Dorcel, ce qui n'est pas le cas partout. Et peut-être que dans d'autres sociétés de production, une fois encore du côté de l'Europe de l'Est, c'est moins important et c'est la raison aussi pour laquelle on voit ce turnover des filles. Il n'est pas rare, c'est des choses qu'on... C'est des témoignages qu'on lit, je veux dire. Il y a en effet des filles qu'on va aller chercher dans des boîtes de nuit, qu'on va utiliser sur un film ou deux et puis qui ensuite seront mis de côté.
Il faut dire aussi
que la réalité est complexe et qu'il y a aussi peut-être parfois des ponts entre prostitution et industrie du sexe.
Alors justement, la réalité de ce côté-là est très simple. Il y a un grand fantasme de ce mélange entre prostitution et actrice. Alors, la réponse, elle est très claire. Plutôt qu'être actrice, ou plutôt qu'avoir ses expériences devant une caméra, ces filles, à ce moment-là, auraient largement intérêt à être escortes, activité qui est rémunérée de façon beaucoup plus importante qu'actrice, qui leur permettrait d'être vues par personne et de faire ça dans la discrétion la plus totale, de tourner avec des acteurs qui seraient des hommes, les escortes, d'être avec des hommes normaux et non pas des acteurs étalons aux performances incroyables. Globalement, pour une partie de jambes en l'air qui durerait 10 minutes ou un quart d'heure en fonction... de l'homme lambda, alors que sur un plateau de tournage, effectivement, l'exercice peut durer 3 heures. Donc, la motivation, en tous les cas, économique, etc., d'aller sur les plateaux de tournage et de faire actrice X, clairement, par rapport à l'escorting, qui est dans la discrétion la plus totale, il fait pas poids. Si vous avez pas derrière une volonté et un désir d'exhibitionnisme et le fantasme qui tourne autour de cette activité. Et c'est vrai que j'entendais d'ailleurs tout à l'heure, moi je suis amusé à chaque fois, c'est que dans notre société, on a encore énormément de mal à penser, à croire et surtout à comprendre que des femmes ou des hommes puissent volontairement s'adonner à être acteur X ou actrice X. Bah si, même si ça étonne beaucoup. Vous avez nombre de femmes qui ont le fantasme, le désir, la volonté farouche d'être actrice X et uniquement pour le plaisir que leur procure ce fantasme-là, l'exhibitionnisme, la notoriété. Alors nous, on se dit « Ah non, non, c'est pas possible, c'est trop sale pour qu'elle puisse vouloir faire ça volontairement. » Eh ben non, voilà. Même si ça en défrise beaucoup, surtout dans les pays latins, c'est faux. Et d'ailleurs, il suffit de vous rendre aux États-Unis pour voir que aux États-Unis, contrairement à notre culture, être actrice X, c'est pas sale, c'est pas grave. On peut faire tous les plateaux télé, on peut devenir star, etc., au même titre que n'importe quelle star de série télé.
Grégory Dorcel pensait qu'on considérait qu'on recevait pas suffisamment de mails ici à Culture Monde, donc il s'est dit voilà, on va arranger l'affaire. Je pense qu'on va recevoir quelques mails, Grégory Dorcel. En tout cas, voilà, les propos que vous tenez n'engagent que vous, j'allais dire. Une question encore, Grégory Dorcel, toujours sur la Hongrie. Quelle est justement la proportion de filles hongroises sur les films et de filles étrangères ?
Quand vous êtes en Hongrie, 90% de filles hongroises. Pourquoi ? Parce que clairement, les filles. Enfin, pourquoi on va tourner là-bas ? Parce que les filles sont beaucoup plus belles. Vous avez énormément de stars hongroises ou petites stars, en tous les cas, par rapport au reste du monde. Et ensuite, vous avez des problèmes qui sont tout simplement logistiques. À partir du moment où vous dites mon casting est beaucoup pour des raisons de casting, je vais tourner en Hongrie, c'est toujours très compliqué de faire venir ensuite des acteurs et des actrices des quatre coins du monde. Donc il est évident que quand vous tournez là-bas, la majorité de votre casting est hongrois. C'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes.
Si on sort, Grégory Dorcel, des États-Unis et de l'Europe, il y a d'autres lieux de production, toujours pareil, hein, on est sur les lieux de production légaux, en Asie par exemple.
Alors en Asie, alors c'est quelque chose qui est toujours sombre. Je crois qu'au Japon, ils sont censés en tous les cas avoir une production, mais le Japon est très particulier en ça que la diffusion d'images pornographiques est interdite, elle doit être mosaïquée. C'est-à-dire, je crois que, alors je ne connais pas la définition exacte, je crois qu'on ne doit pas pouvoir voir ni les parties génitales, mais ni le système pileux. Voilà. Donc les réseaux sont toujours très obscurs. Je sais que nous-mêmes, on essaye désespérément d'acheter des films japonais, etc. Il y en a toujours des fins de non-recevoir. Donc une production qui existe, je ne sais pas, ça fonctionne complètement en vase clos.
C'est donc impossible pour vous de pénétrer le marché nippon.
Alors à l'inverse, nos films sont distribués systématiquement au Japon. D'ailleurs, on doit être une comme dans 50 autres pays. Ça nous fait toujours rigoler. On doit être une des sociétés de production française qui exporte le plus ses productions.
Donc, où est-ce que vous exportez ?
Alors, cinquantaine de pays, donc je pourrais faire toute la liste. C'est plus simple de vous dire où on n'exporte pas. On n'exporte pas en Afrique.
Où est-ce que vous exportez beaucoup ?
On exporte beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Israël, en Australie, enfin aux quatre coins du monde. Mmh. Voilà. Partout où, globalement, finalement, partout où la pornographie est autorisée. Et où est-ce que la pornographie n'est pas autorisée ? Uniquement dans les pays où il n'y a pas de liberté de la femme. C'est assez curieux. Voilà, et je pense qu'effectivement, l'idée doit être par là, c'est que ça nous est insoutenable de penser que des femmes peuvent s'adonner à ce genre de choses. Et donc, nous, on le tolère tout juste, on le voit, en France notamment, mais sur d'autres pays, c'est carrément impossible de l'imaginer.
Il y a encore un pays dont on n'a pas parlé, c'est la Russie. C'est un pays aussi où on produit.
Pas du tout.
Pas tellement.
Il y a...
Alors il y a peut-être un petit peu de production.
Il y a toujours ce fantasme des filles de l'Est.
Oui, les filles de l'Est, je sais, les filles russes. Alors je crois que c'est interdit en Russie. Ça existe un petit peu, je pense, parce qu'en tous les cas, on m'a proposé des films russes, mais d'après ce que j'en ai vu, c'était pas fantastique. Mais en tous les cas, c'est une industrie qui n'est pas du tout développée en Russie.
Merci beaucoup, Grégory Darcel. On arrive à la fin de notre émission. Un grand merci d'être venu ce matin dans nos studios pour parler de cette industrie du porno. Alors, comme les autres ou pas, on n'aura pas répondu et je crois qu'on répondra finalement jamais et que le débat existera toujours. En tout cas, donc je rappelle le directeur général du groupe Darcel. Et puis un merci également à Claire Debrue qui était avec nous tout à l'heure par téléphone pour ce livre que vous ne connaissiez pas, Grégory Darcel.
J'en ai entendu le plus grand bien.
Mais je vous le conseille vraiment, l'histoire du porno américain par ceux qui l'ont fait, c'était chez Alia, et puis tant pis pour Anna Paulina, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci à vous. I Want Your Sex, George Michael, pour finir cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe de Culture Monde, Lucille Como, Pauline Blisten, Antoine Dulster et Salomé Vio. À la technique ce matin, c'était Tanguy Le Corneau. À la réalisation, c'est Nicolas Berger. Dans un instant, sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Caroline Brouet, juste après le journal de la rédaction. Mais à fond, c'est la microfiction. Et puis, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez, on parlait tout à l'heure avec vous, Grégory Darcel d'Internet, qui a considérablement modifié votre industrie, celle qui vous intéresse, l'industrie du cinéma porno, eh bien, elle a également modifié la radio, puisqu'on peut maintenant écouter, réécouter, podcaster toutes les émissions, celle-ci comme les autres. Celle-ci est réécoutable sur le site pendant 1000 jours, podcastable pendant un an. Donc voilà, un de nos points communs. Merci beaucoup et à demain. Si vous êtes sur France Culture, il est 11h51, à demain.